Bonjour à tous, nos chers auditeurs. Moi, c'est William. Bienvenue dans ce 47e épisode de Subculture, une histoire de la musique actuelle. Je vais donc tout au long de cette série retracer l'histoire des genres musicaux populaires que l'on connaît aujourd'hui en accent sur les styles d'origine anglo-saxonne. Autant parler de ce que je connais. Bien sûr, ces genres de musique tirent leur base de sonorité du monde entier. J'en parlerai, mais je ferai peut-être une autre série sur l'histoire des musiques d'autres pays pour pouvoir me focaliser un peu plus sur celle-ci. En attendant, voyons d'où viennent le rock, le rap, la techno, la house. Comment sont-ils apparu, pourquoi, dans quel contexte et comment tous ces styles ont influé sur la scène musicale francophone. C'est ce que nous découvrirons dans cette émission. Je ne vais pas pouvoir parler de tout en détail, mais je sais que vous m'excuserez si je semble oublier certaines choses. Ceci est une synthèse se focalisant sur les genres et styles alternatifs, underground, ce que l'on appelle les sous-cultures, d'où le nom de l'émission. Bien sûr, j'aborderai un peu le mainstream, le commercial, mais ce qui m'intéresse le plus ici, ce sont les rebelles de la musique, qu'ils soient révolutionnaires au sens politique du terme, mais aussi purement musical et technique. Dernièrement parcouru les années 70. Et au Royaume-Uni, nous avions vu que le heavy metal était né notamment grâce à Led Zeppelin ou Black Sabbath. Mais à la fin des 70s, le genre se meurt dans l'île. Les solos de batterie interminables ne plaisent plus, comme avec le rock prog, son cousin. Et un nouveau mouvement de jeunes rejette le métal. Punk monte au Royaume-Uni et tous ces jeunes voient le métal comme un truc vieux et beaucoup trop long et complexe. Sur la scène métal, tout le monde se repose sur ses lauriers et n'amène rien de nouveau sur la table. Le genre devenait presque une parodie de lui-même. En quête d'un sauveur, la scène le trouvera dans les usines de Birmingham qui ont vu naître les Black Sabbath. Cinq gars qui forment un groupe, Judas Priest. Priest répète d'ailleurs dans le même studio où travaillaient Ozzy Osbourne et son groupe avant. Et le groupe affirme qu'il ressentait encore leur présence, leur énergie, dans cette pièce où Ozzy criait. Les Sabbath ont fait démarrer le métal. Judas Priest sont ceux qui l'ont sorti du blues. Contrairement à Sabbath, ce sont les premiers à être tout le temps heavy metal. Un peu les premiers à avoir embrassé le terme heavy metal comme un genre à part entière. Formé en 1970, il a fallu quelques années au groupe pour développer son son signature. Le résultat était frais, inédit. Une énergie alimentée par les guitares lead jumelles de Glenn Tipton et KK Downing et la voix de Rob Halford. Et les riffs sont tout aussi sombres que ceux de Black Sabbath, mais sonnent encore plus métalliques. We'll be right back. Mais ce qui va faire la différence avec d'autres groupes et ainsi les rendre plus visibles au public, c'est leur look vestimentaire. La première moitié des 70s, ils ressemblent un peu à tous les groupes de prog avec leurs vêtements amples de hippie, leurs lunettes rondes et leurs cheveux longs. Ils avaient les lumières, les effets de scène, tout ça. Mais quelque chose n'allait pas visuellement quand même. Et ça, ils vont vite s'en apercevoir et le changer. Au moment où ils sortent Hellbent for Leather, ils commencent à s'habiller tout en cuir, entre le look biker et BDSM. C'était un peu comme une sorte d'épiphanie, ils n'en ont jamais vraiment discuté ensemble. Rob Halford s'est juste mis à s'habiller comme ça, un peu parce qu'il est gay et que c'était la mode du cuir moustache dans les communautés homo de l'époque. Et les autres ont suivi un peu machinalement. Ils vont donc se fournir en veste en cuir clouté et d'accessoires comme des fouets dans les sex shops londoniens. Le style semble extrême, une manifestation de ce qu'est le genre musical. Ils lancent donc une mode comme un uniforme que beaucoup de groupes qui viendront ensuite suivront. Et la plupart des jeunes qui adoptent ce style ne font pas vraiment leur rapprochement avec l'homosexualité. C'est devenu leur style de métalleux. Armés de leur look et leur son agressif, Judas Priest est destiné à percer. Mais le progrès se fait lentement. Au Royaume-Uni, ils étaient au mieux un succès underground. Quand ils feront leur tournée aux États-Unis en 77, ils sont juste en première partie de REO Speedwagon. You should have seen by the look in my eyes, baby. There was something missing. You should have known by the tone of my voice, maybe. But you didn't listen. But you never bled. Instead you lay still in the grass, all coiled up in here sand. And though I know all about those men, still I don't remember. Cause it was us, baby, way before them. And we're still together. Ça changera avec leur sortie de 1980, British Steel. « L'album arrive dans les top 10 britanniques et arrive même à se faire jouer sur les ondes radio américaines. Tout d'un coup, des légions de nouveaux fans sont prêts à accepter Judas Priest et le heavy metal. Du succès de Judas Priest se fait aux États-Unis. À Londres, la scène heavy metal continue de rôder dans la pénombre. Les métalleux anglais se sentent laissés pour compte. Les magazines de rock ne parlent que de punk et de new wave. Aucun ne veut parler du old school. Et AC/DC, Motorhead ou les Priest sont classés comme old school. Mais un pub au nord-est de Londres sert un peu de bastion pour le heavy metal. Neil Kay est le propriétaire du Bandwagon et résiste contre la vague punk. Pour lui, quelqu'un ne devrait monter sur scène que s'il sait vraiment chanter et jouer, alors que le punk, c'est de l'anti-musique selon lui. Il instaure donc des soirées DJ metal, les Neil Kay Heavy Metal Soundhouse. Kay se dit qu'il a besoin de pub aussi. Il repère un magazine musical appelé Sound, qui suit la progression du rock. Il arrive à contacter Geoff Barton, un des journalistes de Sounds, qui fondera, soit dit en passant, le magazine Kerrang en 81. Et il se trouve que le hard rock et le heavy metal, c'est la musique favorite de Geoff. Kay lui dit qu'il devrait faire un article sur son pub et ses soirées DJ, qui sont un peu comme une discothèque, que lui appelle Soundhouse parce que le mot discothèque, bah c'est de la merde. Et Barton consacrera donc une double page au Bandwagon, Neil Kay, sa Soundhouse et la nouvelle vague du heavy metal. Après ça, ce sera tous les soirs salle comble pour Kay. Il doit même refuser l'entrée à beaucoup de gens qui font donc la fête autour du pub dans la rue au milieu du rond-point. À l'aube des 80s, l'endroit devient une plaque tournante pour le métal. On voit plein de jeunes aux cheveux longs, des vestes en jeans pleines de patchs à l'effigie de Motorhead, Judas Priest ou AC/DC. Les gens font des concours d'air guitare et même de guitare en carton. Ils font pareil que pour leur guitare, mais là en plus, il faut concevoir son plus bel instrument en carton pour en mettre plein les yeux aux autres participants et au public. Ça aussi devient un phénomène qui attire les curieux de tout le pays. Mais ok, jouer ce que les gens attendaient. Et si vous étiez un groupe en recherche de renommée, avoir votre démo jouée au Soundhouse était le Graal. Néon reçoit des centaines et des centaines, et parmi elles, une lui donnera la chair de poule. Bandwagon adore. Il headbang à donf dessus. Plein de groupes naissent à cette époque, Saxon, Girls' Code, Savage ou Venom. Mais c'est Iron Maiden qui est dans toutes les bouches. Grâce à leur cassette démo légendaire, ils réunissent très vite une fanbase et une réputation de groupe du peuple. Mais les labels qui veulent les signer veulent aussi les transformer en punk. Et oui, c'est plus rentable à l'époque. Le groupe attendra donc qu'un label sur lequel ils peuvent rester eux-mêmes avant d'accepter un deal. Ironiquement, quand ils sortent leur premier album éponyme en 80, le public et les critiques voient en eux les éléments punk qu'ils rejettent. Ils ont l'énergie du punk sur des partitions compliquées du prog rock. Les gens qui écoutent ça se disent que c'est encore plus démoniaque que Judas Priest. En 1982, les Maiden ont déjà deux albums à leur actif, Iron Maiden en 80 et Killers en 81, et un énorme soutien de fans de metal du monde entier. Pendant que leur popularité montait, le groupe regardait vers son avenir. bien au-delà des limites de leur chanteur Paul Di'Anno. Qui ressemble plus à un chanteur et leader de punk, il n'a pas de technique vocale très poussée, mais son énergie correspond bien à ce que les deux premiers albums représentent. Mais le groupe sent qu'avec lui, ils vont stagner. Et puis il est imprévisible et impulsif, ce qui n'est pas très acceptable pour ses collègues. Pour avancer, ils avaient besoin d'un nouveau chanteur. Dickinson, le chanteur de Samson, un groupe qui semble voué à ne jamais vraiment percer, qui les voit sur scène et se dit que c'est trop bon, mais qu'il ferait sans doute un meilleur travail que Di'Anno. Il se présente donc au groupe et sera recruté. Il enregistrera l'album de 82, The Number of the Beast, et tous les suivants. Dickinson est en tout point un meilleur chanteur. Objectivement parlant, je veux dire, vous avez le droit de préférer Di'Anno. Mais il a une plus grande amplitude de notes, il est plus précis dans sa technique vocale, c'est un meilleur parolier. Bref, c'est lui qui permet à ce moment à Iron Maiden de passer à la vitesse supérieure et enfin remplir des stades. Avec Dickinson devant, le groupe avait sa personnalité, plus grande que la vie elle-même qu'ils avaient toujours voulu. Mais il y avait un élément unique au Maiden, plus connu que quelconque membre du groupe. Il ne jouait pas d'instrument et ne chantait pas, mais Eddie devint le seul responsable pour projeter l'image du groupe et devint un des symboles du heavy metal le plus adoré.
Attack!
ce personnage qui devient la personnification d'Iron Maiden, leur effigie. Il est partout, sur des t-shirts, des stickers, les affiches. Il représente tout leur fantasme, tout leur humour, leur ironie et leur agression. Au début, Eddie n'est qu'une tête en papier mâché, une déco de scène, et il n'a pas de cheveux. Ce n'est qu'ensuite, quand il prend un peu plus vie, en étant joué par quelqu'un déguisé sur scène, qui lui rajoute des cheveux longs pour qu'il ressemble à un vrai métalleux headbanger. C'est ce personnage représenté sur les couvertures d'albums et singles qui attire beaucoup de nouveaux fans. Il voit ses dessins sur les pochettes et trouve ce genre de monstre, cadavre, alien, on sait pas trop, trop cool. Prouvant un peu l'importance de l'imagerie et de l'art visuel dans la musique. Tout groupe de musique est influencé par son environnement. Black Sabbath ou Judas Priest viennent de Birmingham. C'est une zone très industrielle, tout est gris, des bâtiments au ciel. Le paysage est rempli d'usines de métallurgie et autres industries lourdes. Et l'on voit beaucoup de fumée s'échapper des cheminées. Tout le contraire de la Californie où l'on voit la plage, le soleil, les palmiers et le bonheur. Fin 70, début 80, le heavy metal est très masculin, macho, sombre et anti-glamour. Mais l'environnement californien va favoriser une nouvelle vague plus glamour, sexy, avec plus de femmes. Mais ça, on le verra une prochaine fois. Et oui, Subculture, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve tous les lundis 13h15 et 19h15, le samedi 11h et le dimanche 22h sur Radio FM+, fréquence 91 de la bande FM. Sur internet, via l'onglet Écoutez le direct du site radiofmplus.org ou encore sur les applis Radio Line ou les radios associatives. Vous pouvez également retrouver cet épisode et tous les précédents en écoute et téléchargement à la demande gratuitement toujours sur radiofmplus.org. Et moi je vous dis à la prochaine et rock on!